Chapitre 7. Marcel Favrin parle. Une heure plus tard, Croiserelle pénétrait dans la cour de la gendarmerie de Viroflay. Plusieurs voitures y stationnaient. Par la porte ouverte d'une écurie, on apercevait un gendarme en train d'étrier un cheval. Le commissaire traversa rapidement cette cour, gravit les quelques marches qui donnaient accès à un long couloir. Coupé de 6 portes, sur chacune d'elles était fixé un écriteau rédigé à la main avec un soin bureaucratique. Il rencontra un jeune homme, un journaliste sans doute, en quête d'une cabine téléphonique. Arrivé devant le bureau du capitaine, il frappa. Aucune réponse ne se fit entendre. Il frappa de nouveau. « Entrez donc !» cria une voix furibonde. Un spectacle peu banal s'offrit alors à ses yeux. Le capitaine de gendarmerie était assis derrière son bureau, confortablement adossé à son fauteuil, les mains jointes de telle manière que les doigts s'enchevêtraient parfaitement dans une posture avantageuse. En face de lui, assis, debout, appuyé contre les murs, une dizaine de journalistes prenaient des notes. Personne ne fit attention au commissaire. Tout le monde était suspendu au récit que faisait le capitaine de la découverte du crime. Celui-ci parlait lentement, de manière que les reporters ne perdissent pas une seule de ses paroles. À la fin de chacune de ses phrases, il observait un temps, puis, avant d'en commencer une autre, il demandait « Vous êtes prêts ?» Comme Croiserelle, en entrant, lui avait fait signe qu'il avait à lui parler, pour toute réponse, il s'était contenté de faire un geste dont le sens était « Vous voyez bien que je suis occupé, attendez un instant. » Puis il continua ainsi. « Vous êtes prêts ? Merci. À la suite des renseignements qui m'étaient parvenus, j'avais acquis la certitude que nous nous trouvions, non pas en présence d'une fugue banale, mais d'un crime atroce. Non pas en présence d'une fugue banale, mais d'un crime horrible, atroce plutôt, enfin, comme vous préférez. Vous êtes prêt ? Vous pouvez continuer, capitaine. Merci. Je résolus d'en avoir le cœur net. De concert avec la police judiciaire, je décidai de me rendre sur place. Un examen approfondi de la maison, du jardin, pouvait seul, selon moi, apporter quelque éclaircissement à cette affaire mystérieuse. Vous connaissez, messieurs, le résultat de notre initiative. D'une part, découverte du cadavre de Madame Favrin, de l'autre, arrestation de l'assassin. On ne pouvait pas en demander davantage. Croiserelle alluma une cigarette et attendit patiemment que le capitaine de gendarmerie fût arrivé à la fin de ses explications. Lorsque l'éternel journaliste, qui revient après le départ de ses confrères, avec l'espoir de se voir donner un détail que ceux-ci n'auront pas, eut disparu, le commissaire s'approcha du capitaine en souriant. « Vous avez peut-être eu tort de faire cette déclaration à la presse. Pourquoi ? Il y a de nombreuses chances que celle que vous croyez être la victime soit en excellente santé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous ne m'avez pas compris ? » Le capitaine s'était dressé, puis il arpenta à grandes enjambées son bureau. Brusquement, il s'arrêta. « Voulez-vous que je vous ouvre ma pensée ? » dit-il en essayant de donner à sa voix des inflexions câlines. « Je ne demande pas mieux. Vous vous perdez dans des subtilités. Comme beaucoup de vos collègues, vous aimez la complication. Vous recherchez des choses auxquelles personne n'a pensé. La solution logique que l'homme de bon sens trouverait, celle-là, elle vous est désagréable. Il vous semblerait, en l'adoptant, que vous diminuez vos mérites. En effet, quelle gloire peut-on tirer d'une arrestation que tout le monde a prévue ? » Croiserelle ne jugea pas utile d'entamer une discussion avec le capitaine. Il en avait trop vu dans sa longue carrière pour se formaliser d'une attaque de ce genre. Il avait pour lui sa conscience. Il savait bien que sa seule préoccupation, dans toutes les affaires qui lui étaient confiées, était de faire triompher la justice. Ce n'était ni l'envie, ni l'orgueil, ni la vanité d'un capitaine de gendarmerie qui pourrait l'atteindre. « Si je vous ai téléphoné tout à l'heure, précisa Croiserelle, pour vous annoncer mon arrivée, C'est que mon désir est d'interroger un nouveau Favrin. Voulez-vous avoir l'amabilité de me le faire amener? J'ai plusieurs questions à lui poser qui, je l'espère, apporteront quelque éclaircissement sur une affaire qui, quoi que vous prétendiez, me paraît encore bien compliquée. » Un instant après, deux gendarmes introduisaient Favrin dans le bureau du capitaine. L'inculpé n'avait sans doute pas dormi. Son visage était défait. Ni rasé, ni lavé, les cheveux en désordre, les vêtements fripés, il avait l'aspect d'un vagabond qu'on eût ramassé à l'aube sous un pont. « Veux-tu une cigarette ?» lui demanda tout de suite Croiserelle pour le réconforter. « Ce n'est pas de refus, » trouva moyen de répondre Favrin. Pour montrer qu'il se désintéressait de la suite que pouvait donner le commissaire à cette affaire classée pour lui, le capitaine était retourné à son fauteuil et, les jambes croisées, s'était plongé dans la lecture d'un journal, mais sans comprendre ce qu'il avait sous les yeux, bercé qu'il était par une voix lointaine qui lui répétait sans se lasser « Demain, ton interview paraîtra. Demain, ton interview paraîtra. Et peut-être ta photo. Et peut-être ta photo. » « Tu ne veux toujours pas avouer, dit le commissaire, que tu as tué ta femme. Pourtant, comme tu as pu le voir, on a retrouvé son cadavre dans ton jardin. Il serait quand même plus simple que tu t'expliques. Tu n'es pas un enfant. Tu dois bien te rendre compte qu'il t'est impossible de nier. C'est comme si tu disais, en ce moment, alors que tu as une cigarette entre les doigts, je ne fume pas. Évidemment, tu ne fumes pas à la seconde précise où tu le dis. » Mais tu viens de fumer et tu vas refumer. Est-ce que tu me comprends? Il ne s'agit pas de jouer sur les mots. Tu n'as peut-être pas tué ta femme, mais tu sais qui est le coupable. C'est peut-être toi qui as creusé la fosse. Enfin, tu n'ignores pas comment les choses se sont passées. Je n'ai pas tué ma femme, répondit Favrin. Tu devrais comprendre, Favrin, que tu n'auras pas le dernier mot. Tu es seul, prisonnier, cependant que nous sommes nombreux, que nous avons la liberté d'interroger qui nous voulons. La lutte est inégale. Il vaudrait bien mieux pour toi, pour te concilier l'indulgence des jurés qui auront à se prononcer sur ton sort, que tu adoptes une autre attitude. Je n'ai pas tué ma femme. Ne te moque pas de moi, Favrin. Comme je viens de te le conseiller, il ne faut pas jouer sur les mots. Je ne sais même pas ce que cela veut dire. Cela veut dire faire le niais. Je n'ai pas tué ma femme. Je suis innocent. Je demande qu'on me relâche. Et le cadavre? C'est peut-être un voisin qui a fait le coup. On sentait que Favrin avait déjà mis sur pied tout un système de défense. Tu affirmes que tu n'as pas tué ta femme? Oui, je l'affirme. Le commissaire, durant une seconde, jeta un regard perçant sur l'inculpé, puis il prononça ces trois mots inattendus. Je le savais. À l'encontre de ce qu'on eût pu attendre, aucune joie ne se peignit sur le visage défait de l'inculpé. Il leva les yeux, regarda avec étonnement son interlocuteur. Oui, je le savais, répéta ce dernier. Tu n'as pas tué ta femme pour l'excellente raison qu'elle n'est pas morte. Certains témoignages me permettent d'affirmer qu'elle est en excellente santé. De pâle qu'il était, Favrin devint livide. Il laissa tomber sa cigarette. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda le commissaire. Il essaya de parler, mais il ne put balbutier que quelques mots inintelligibles. « Il ne faut pas te frapper, Favrin. Au contraire, réjouis-toi. Tu dois te sentir soulagé de voir que ce que tu as toujours dit est confirmé par les événements. Tu es innocent du meurtre dont on t'accusait. D'ailleurs, tu l'aimais bien, ta femme. Tu n'aurais pas été capable de la tuer. » Mais Favrin s'était ressaisi. Les rides qui, durant cette dernière minute, avaient sillonné son visage, s'étaient effacées. Son regard s'était éclairé, en même temps qu'une expression amère se lisait sur le bas de sa figure. « Ce n'est pas bien, monsieur le commissaire, » dit-il. « Ce que vous faites là n'est pas bien. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Ce n'est pas bien d'avoir recours à de tels moyens pour me faire avouer. Vous avez voulu m'attendrir. » Vous avez voulu, en feignant de me croire incapable de tuer ma femme, faire vibrer en moi ce fond d'honnêteté que l'on trouve chez les pires criminels. Vous y avez réussi, monsieur le commissaire. Je suis un infâme individu. Je mérite le châtiment le plus sévère. C'est vrai, elle m'aimait pourtant. Elle acceptait tout de moi. Elle supportait mes brutalités, ma méchanceté, sans jamais se plaindre. Car, voyez-vous, elle n'a pas toujours été domestique. Elle avait reçu une très bonne éducation. Malheureusement, la guerre avait dispersé sa famille. Un jour, elle s'est trouvée seule. Et moi, au lieu de la protéger, au lieu de lui rendre plus douce cette existence à laquelle elle n'était pas habituée, pour laquelle elle n'était pas faite, je la maltraitais. Non, ce n'est pas bien, monsieur le commissaire, ce que vous avez fait. Vous aviez tous les droits, sauf celui de paraître croire à mon innocence. J'avoue, monsieur le commissaire, j'avoue, je l'ai tué. Vous voyez, dit à Croiserelle le capitaine de gendarmerie, qui n'avait pas perdu une parole de cette confession, et qui, à chaque mot, s'était senti insensiblement grandir, prendre de l'importance. Mais le commissaire ne répondit même pas à cette interruption. Pourquoi as-tu tant tardé à avouer ? J'étais replié sur moi-même. Je ne savais pas ce que je disais. J'avais peur. Ce n'est que lorsque vous m'avez témoigné quelques égards qu'une sorte de détente s'est opérée en moi et que j'ai compris ce que j'avais fait. Il y avait un tel contraste entre l'homme que j'étais et celui que vous avez feint de croire que j'étais que, brusquement, je n'ai plus pu me contenir.